On aurait pu penser, dit la Mechilta, qu'on place les Aseret HaDibrot en tête de la Torah. Alors, à cette question, on a donné la réponse suivante. Machlou, c'est-à-dire on a donné un machal. Machlou, machal, les mains d'avoir domé. À quoi est-ce que ça pourrait ressembler? L'echad shenichnas bamdina. Il y a un bonhomme qui entre dans un pays, il arrive dans un pays. Amar lahem emloch alechem. Et il dit aux gens, je vais régner sur vous. Ou bien on le met en asile, ou bien... Amroulo, klouma sitalanu, shetim lochalenu. Qu'est-ce que tu as fait pour nous, pour pouvoir, pour que tu aies un droit de régner sur nous? Maasa, qu'est-ce qu'il a fait? Esbana lahem et achoma. Il leur a construit le mur, il a construit l'enceinte, le mur d'enceinte autour de la ville. Ichnis lahem et amaim. Et il a fait arriver l'eau, il a ramené l'eau. Asalaem, Milchamot, il a fait des guerres pour eux. Après ça, il leur a répété, Emloch Alechem, maintenant, est-ce que je peux régner sur vous? Amroulohen, oui, oui. Kachamakom, même chose pour Hachem. Otsi Israël mi Mitzrayim, kara lahem hayam, il les a sortis d'Égypte, il a ouvert la mer pour eux, fendu la mer pour eux. Orid lahem aman, et là lahem aber, il leur a fait descendre la manne, il leur a fait monter l'eau du puits. Igiz lahem aslav, il leur a donné les cailles. Asalahem milchemet amalek, il a fait la guerre contre Amalek. Amar lahem emloch alechem. À ce moment-là, il leur a demandé, est-ce que je peux régner sur vous, en quelque sorte? Amrolohen, oui. Rabbi Omer, le odia shvachan shel Israël, ceci pour dire du bien d'Israël, la louange d'Israël, כשעמדו כולן על הר סיני לקבל התורה, lorsqu'ils étaient tous sur le Sinaï pour recevoir la Torah, ושבו כולם לב אחד. Ils se sont unis tous au point d'avoir un seul cœur, לקבל מלכות שמיים בשמחה. Pour accepter la royauté divine בשמחה, avec joie. Velo'od, et pas seulement ça, et là, chez Memashkenim, Zé, Alzé, Velo, à la Niglot, Levad, Nigle, Akadosh, Bechualehem, Lichot, Beritimahem, et la Amf, à la Starim. C'est-à-dire, ils étaient garants l'un pour l'autre. Et Akadosh, Bechou, ne s'est pas dévoilé seulement sur eux, donc il ne s'est pas présenté à eux seulement avec les choses qu'il a. Était complètement visible, ouverte, guiloui. C'est là-dessus qu'il a fait une alliance pour des choses. Mais même sur les choses cachées, l'alliance, elle comporte aussi les starim, on va voir ce que c'est. Shenemar anistarot l'Hashem Elokeinu ve'aniglot lanu l'vanenu adolam. Les choses cachées sont pour Hashem notre Dieu, ve'aniglot, et les choses qui sont ouvertes, qui sont visibles, sont pour nous et nos enfants, Adolam, pour l'éternité. Amroulo à la glue, manu kortim brit, imach, voilà la starim, shelo yé echad mimenu chote beseter viye atzibur mitmashken. Là, eux, ils ont dit, Akadosh Baruch Hu voulait ça, mais ils ont dit non. Ils ont dit, on entre en alliance avec toi que sur les choses visibles, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un parmi nous qui faute en cachette et nous en serions responsables. parce qu'on est co-responsables les uns des autres, on ne veut pas être responsable de quelque chose que quelqu'un ferait en cachette de nous-mêmes. Il ferait des choses comme ça, et nous, on serait obligé de porter la responsabilité, alors qu'on n'est pas, même pas du tout au courant. Alors, il y a donc deux parties dans ce commencement de la Mechilta, de ce Midrash halachique. Pose la question, effectivement, pourquoi est-ce que la Torah ne serait pas, elle commencerait pas par les Aseret Adibrot. Bon, alors... Et la Mechilta, elle donne une réponse, toujours, comme toujours avec un machal. Dans ce machal, ce qu'on voit, c'est que il y a une volonté d'Hachem de régner sur les Bnei Israël. Mais c'est une volonté de régner sous forme de Melech, c'est-à-dire d'une royauté acceptée par les... Donc il est obligé de leur demander, est-ce que vous m'acceptez comme roi? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on voit un Anochi Hashem Elokecha, et semble-t-il, cette phrase-là, elle vient comme représentante de la totalité des Aseret HaDibrot, des commandements, et c'est présenté comme une annonce, mais interrogative en quelque sorte, de ce que l'annonce de la royauté. Entendre c'est Aseret HaDibrot, c'est entendre et accepter, c'est accepter la royauté divine, accepter qu'Hachem soit roi. Si on l'avait mis au début de la Torah, ça aurait, d'après le Machal, ce serait équivalent à dire que quelqu'un qui n'aurait rien fait pour les Bnei Israël viendrait dire « Acceptez-moi comme roi ». Et donc, la raison pour laquelle les Aseret HaDibrot sont là, dans Parshat Yitro, c'est qu'entre-temps, il y a eu la sortie d'Égypte, Kriyat Yamsouf, enfin, il y a eu tout, Milchemet Amalek, etc. Et à ce moment-là, Hachem peut se... Ben, il a quelque chose à présenter, voilà. Est-ce que tu as fait quelque chose pour nous? Oui, voilà ce que j'ai fait pour vous. Et donc, j'ai fait quelque chose pour vous, donc vous pouvez m'accepter comme roi, et les Bnei Israël, ils vont t'accepter. Pourquoi est-ce qu'il fallait... Toujours la même question, pourquoi est-ce qu'il fallait en passer par un machal? Pourquoi la Mechilta n'a pas simplement dit... C'est simple, les Bnei Israël, Hachem ne pouvait pas régner sur eux tant qu'il n'avait rien fait pour eux, puisque quoi, il l'accepterait comme roi. Bon, la question en elle-même, elle n'est pas si simple que ça, mais ce qu'on voit en tout cas, c'est que les Bnei Israël, bien qu'ils soient qu'il soit, comme on va le dire plus loin, Atem Kruim Adam, c'est-à-dire bien que les Bnei Israël soient les descendants d'Adam, et que Hachem pour Adam, il a fait des choses, et que, bon, on pourrait très bien dire, ben voilà, chacun d'entre nous a été créé. Mais pourquoi dire, j'ai pas... Pourquoi vous ne m'accepterez pas comme roi? Que je vous ai donné la vie, en fait. Mais ça, on pourrait dire, mais ça, on ne m'a pas demandé mon avis. Quoi. Comme on dit dans Pirkei Avot, Al-Kochacha, Tachai. Tu n'as pas demandé ton avis pour naître, pour te faire naître. Donc Hachem ne nous a pas demandé notre avis pour savoir si on voulait exister. On est là. Donc on ne va pas dire que de nous avoir créés, c'est avoir fait quelque chose pour nous. En plus, le « nous » ici, visiblement, c'est un « nous », nous juifs, quoi. Nous sortant d'Égypte. Tout commence avec la sortie d'Égypte. Ce qui est intéressant, c'est que la sortie d'Égypte, ici dans ce texte, elle est comparée, si on regarde un peu terme à terme, elle est comparée à Banalaim Achoma. Le roi, dans le Machal, il leur a construit la muraille extérieure. C'est-à-dire, il a construit ce qui les sépare des autres. Il a construit une ville, une médina, une ville, et voilà, j'ai construit la muraille extérieure, je vous ai séparé des autres. Et la sortie d'Égypte, comme nous séparant des autres aussi, c'est comme construire une muraille autour de nous. Il a fait les guerres pour nous contre les ennemis, contre Amalek. Donc, à ce moment-là, les Bnei Israël peuvent accepter parce que, effectivement, par reconnaissance pour ce qu'Hachem a fait pour eux. C'est-à-dire que, semble-t-il, s'ils n'étaient rois que parce qu'il les a créés, alors ce serait quand même quasiment une tyrannie. On ne nous demande pas notre avis, donc c'est pas un Meler, d'accord ? C'est un Moshel. C'est. Non, pas ton avis. Oui.
Je réponds qu'il y a un mot, je ne pas tellement la honte. Pourquoi vous dites vous-même que commence par la sortie d'Égypte ?
Oui.
Ça aurait dû commencer par la sortie d'Égypte.
Pardon ?
Ça aurait dû commencer là par la sortie d'Égypte, pas par Bereshit.
Bon, justement. Eux, ils disent tu nous as rien fait. Hein. Alors Hachem dit ben, je vais vous faire quelque chose. La question, elle se pose, semble-t-il, quand il existe des Juifs. Il vient dans la Médina, la Médina, elle existe. Il y a des gens, ils sont là. Il vient, il y a des gens, semble-t-il, ils n'ont pas droit, ils n'ont pas de roi. Et bon, il vient, est-ce que vous pouvez accepter moi comme roi ? Ils disent, mais tu n'as rien fait pour nous. Fait quelque chose pour nous, puis on verra après.
Pourquoi
sortie d'Égypte, c'est construire la muraille.
Donc ça, si on suit cette thèse-là, ça aurait dû commencer par la sortie d'Égypte.
Ça commence par la sortie d'Égypte.
La Torah commence par Bereshit.
Ah non, mais la question n'est pas... Je ne vais pas t'expliquer pourquoi ça commence par autre chose. Je t'explique pourquoi les Aseret HaDibrot, qui sont la demande d'Hachem d'être reconnu comme roi...
Oui, mais si on suit ce machal,
oui.
En commençant par la sortie d'Égypte, ça aurait suffi pour dire, voilà, tout ce que j'ai fait.
Qu'est-ce qu'il avait... Quand il l'aurait dit ?
Et après...
Ben, il ne l'a pas fait. En sortie d'Égypte, ce n'est pas suffisant. On voit que dans le Machal, il a fait la guerre, il a fait. Tout ça, c'est postérieur à la sortie d'Égypte.
Tout ce qui est postérieur à la sortie d'Égypte.
C'est constitutif. Oui. Tu vois, il y a quelque chose que je ne comprends pas là. Non. J'ai bouché là.
Oui, si tu veux,
ça aurait suffi. On parle de la sortie d'Égypte.
Si on suit le Machal qui dit, voilà, disons, le Machal, il explique pourquoi ça ne commence pas par les 10 commandements.
Oui.
Il explique ça en disant parce qu'il a fallu qu'avant je fasse un certain nombre de choses pour qu'on m'accepte comme on
veut. Oui.
Si on avait commencé par la sortie d'Égypte, ces choses-là, elles ont été faites. Depuis là, il y a eu la sortie d'Égypte, et puis tout ce qui a été fait après, ça suffit à expliquer le machin, disons, à dire que à être accepté comme roi.
Tout à fait.
C'est depuis la sortie d'Égypte que ça s'explique, disons, si on suit ce machin.
Oui, mais il est accepté comme roi à partir du moment où il y a eu sortie d'Égypte, plus ça, plus ça, plus voilà. Ça, plus ça. Et à ce moment-là seulement, il l'accepte. Parasha Titro, c'est après tout ça. La question, elle est, tu aurais dû le mettre au début de la Torah. C'est vrai, on n'explique pas pourquoi il y a autre chose au début de la Torah. On explique seulement pourquoi ça, c'est pas au début de la Torah.
Oui.
Ici, dans la question de l'être, il y a le fait que celui qui se présente dans la vie aurait dû être roi du monde.
Il est ?
Il aurait dû être roi du monde. Évidemment, il a un objectif plus modeste, c'était d'être roi de la vie.
Oui. Il demande seulement à être roi, parce qu'au Bnei Israël, parce que sur le reste du monde, il ne demande pas à être reconnu. Il ne demande pas à être Melech. On dit qu'il a Shem HaMelucha ou Moshe Bagoim. Sur le reste du monde, il est Moshe, il est tyran, il ne leur donne pas leur avis. Il n'y a pas de Kabbalat à Mitzvot, des Shem HaMitzvot des Bnei Noach. Ils ne les ont jamais acceptés. Ça leur a été imposé sans qu'on leur demande leur avis. Donc, pour être roi du monde, il n'est pas Meller du monde, il est Moshel sur le monde. Il n'est pas roi accepté, si on veut, il est tyran par rapport au monde, au sens où il ne leur demande pas leur avis, il leur impose des lois. Il ne leur demande pas si vous êtes d'accord de m'accepter comme roi. Maintenant, quand il vient dans la Médina, il dit, mais acceptez-moi, bah. Pourquoi un roi ne vient pas... La situation est étrange, d'ailleurs, d'un roi qui vient et qui dit, acceptez-moi comme roi. Ça, le problème, c'est de savoir à quel moment est-ce qu'il s'est présenté et qu'ils l'ont envoyé sur les roses. Il lui dit, t'as rien fait pour nous. C'est quand ça? Le nous n'existe qu'à la sortie d'Égypte. Donc il faudrait dire que c'est avant la sortie d'Égypte. En Égypte, il vient, il leur dit, acceptez-moi comme roi. Et ils lui disent, mais t'as rien fait pour nous. On est esclaves, t'as rien fait pour nous. Alors, Alors maintenant il les sort d'Égypte, etc. Et il les amène au pied du Sinaï et il dit, maintenant, acceptez-moi comme roi. Il dit, oui, maintenant, oui. Donc quand on dit, il vient dans la Médina, comme le roi qui vient dans la Médina, ça veut dire, il est venu en Égypte. Il est venu auprès des Juifs qui étaient en Égypte et qui... Ils n'ont jamais existé autrement qu'avant. Avant, ils n'ont jamais existé, c'était une famille avant. Il n'y a pas de peuple juif comme tel. Mais la famille d'Abraham. Quelque chose était en marche, mais cette chose-là, c'est, comme dit Rambam, ça s'est quasiment complètement détruit durant l'exil égyptien. Kimat Kat, il dit pratiquement le clan Israël a disparu. Toutes les valeurs d'Abraham ont disparu. Et à ce moment-là, ceux qui sortent d'Égypte, effectivement, c'est pas que la crème de la crème, sauf que quand même, il y a quand même, c'est quand même 20% qui sortent seulement, qui acceptent de sortir. Seulement, il y a l'air évrable qui s'est mélangé. Mais autrement, c'est quand même une sélection de tout. Ça veut dire, vous avez raison, il y a l'air évrable, mais autrement, les autres sont. Oui, c'est pas fini. Ça s'appelle simplement construire la muraille. Mais il faut encore qu'il leur donne à manger, etc. Tout ce qu'il a fait dans le Machal.
Ce serait Ephrat qui fait partie du peuple juif.
Qui?
Ce serait Ephrat qui a accompagné les.
Il a été accepté par Moshe Rabbeinu, oui.
Oui. On est descendant de lui aussi.
C'est un peu problématique parce que Le Gaon dit, effectivement, que les leaders de Klal Israël aujourd'hui, enfin aujourd'hui, avant le Mashiach, avant le Mashiach, c'est le Rebbe. Le Gaon de Vilna. C'est pas, ça date pas d'aujourd'hui. Donc voilà pourquoi on ne pouvait pas mettre un Aseret HaDibrot en tête. Là, on voit très clairement que la malchoute, c'est quelque chose. Le roi ne peut pas être roi si le peuple ne l'accepte pas. Bien, alors, ensuite, ici, c'est. Ce qui est intéressant, c'est que c'est marqué Anochi Hashem Elokecha, c'est-à-dire c'est un singulier. Alors, Rabbi, justement, il dit ce singulier-là, il vient l'odia Shvachan chez l'Israël. Ça vient dire quelque chose de très positif sur Israël, c'est que. Quand ils ont reçu cette Malchut Shamaim, quand ils ont accepté la royauté du ciel, ils l'ont accepté Besimcha, et ils l'ont accepté en étant parfaitement unis. Une unité qui allait jusqu'à être co-responsables les uns pour les autres. Alors, j'ai ici un commentaire du natif de Volozhin, donc de Megdavar, sur cette deuxième partie là, où il dit effectivement pourquoi est-ce que c'est écrit Belashon Yachid, pourquoi est-ce que c'est écrit au singulier Lokecha, le lamed sheba venigla alehem sheikablu onesh kol yachid alehem, c'est-à-dire qu'Hachem s'est dévoilé à eux et il leur a demandé d'accepter sur eux la sanction de chaque individu, c'est-à-dire une espèce de responsabilité collective, justement. Le clan Israël est collectivement responsable de chacun de ses membres. Et il dit donc que c'est ce que Rabbi vient dire ici. Et il dit Vekarov le Zepiresh Ramban, Zal, que le Ramban il a expliqué les choses de façon très proche. Le Ramban dit que. Balazir, kol yachid mehem, ça vient mettre en garde et donc avertir chaque individu. Yanesh ala mitzvot, ou le kol echad yitzave shelo yachshevu ki achar harov yelech, vayachid inatzel imahem. Ça vient dire ici, il ne faut pas que l'individu s'imagine que lui pourra s'en tirer parce qu'on ira d'après le rov. On ira d'après la majorité. Alors, si les mitzvot s'adressent à la totalité du clan Israël, alors on pourra dire, bon, ben alors, ça s'adresse à la totalité, donc ce qu'on a besoin, c'est une observance de la majorité, puisqu'il y a une règle qu'on va d'après la majorité. Majorité vaut totalité, donc on pourrait se raconter que, bon, voilà, chaque yachid peut être sauvé du fait qu'il serait dans un peuple qui est majoritairement bon, même si lui il se conduit mal. Et donc, Yivaer, Lahem Moshe, Zot Akavana be Parshat Atem Nitzavim. Et ça, c'est Moshe Rabbeinu leur explique dans la Parshat Atem Nitzavim. il leur explique, comme on a vu, le Anistarot l'Hashem Elokeinu Vaniglot Lanu, etc. Hashem a dit d'abord, effectivement, je fais une alliance avec vous, avec tous ceux qui sont là, tous ceux qui ne sont pas là, etc. Mais Ve'aynu Alpirush, Peignesh Bachem, c'est le pasouk en fait, Peignesh Bachem, de craindre qu'il y ait quelqu'un parmi vous qui se conduise comme il en a envie, il dira Shalom Yeli, moi je risque rien, tout ira bien. D'accord ? Parce que il y aurait une, c'est comme ça, c'est parce qu'il y aurait une majorité qui me sauvera. Il y aura une majorité des gens pieux et respectueux de la Torah, et ils vont me sauver. Pirusho kan gam ken emet. Il dit l'explication qu'il y a ici, elle est également vraie. Le fia emet, shelo kiblu alehem et anistarot. Ici, il y a quand même, on voit très bien, que les ministres sont extrêmement responsables, et ils disent, mais non, nous on ne s'engage pas pour les anistarot. Les choses qui sont cachées, c'est pour Hachem. Nous, on ne peut pas s'engager sur les choses qu'on ne voit pas. C'est lo yatsa dvar Hachem l'arik khalila. Mais évidemment, quand Hachem a dit « moi je fais une alliance, y compris sur les choses cachées », alors quoi, ils ont dit non, et puis donc ce qu'Hachem a dit c'est devenu lettre morte. « Aval trilata kavana haya kedata mechilta » Mais la kavana, elle était au départ comme la mechilta le dit, et dit que dans le Midrash Tanchuma aussi, « shenidrash kol ze me'adirti vayanu kol ha'am yachdav » Le peuple a répondu « tous ensemble » Ushvu kulan, ils se sont mis tous au même niveau. Vayu mitmashkenim natsman. Et donc, ils se donnaient en garantie. Chacun d'entre eux s'est donné en garantie, en fait. Umiyanu le kabel anistarot. Mais ils ont refusé d'accepter ce qu'on appelle ici les anistarot, c'est-à-dire. Nous, on ne veut pas chez Yéhad Mimen ou Choté Beseter, Yad Sibour Mitmashken. Ça, on ne veut pas qu'il y en ait un qui faute en cachette. Et nous, on serait tout à coup responsable de ce qu'il fait, lui. Alors, il dit, ben, c'est pour ça qu'Hachem a dit ouvertement toutes les choses. Ce n'est pas un Nistarot, ce n'est pas resté. Alors, sur Afalanistarim, alors, les Bnei Israël ont répondu à Hachem, quoi, le Tzibour, il va être obligé de payer pour les individus. Alors, justement, d'où est-ce que la Mechilta sait que les Bnei Israël n'ont pas accepté, parce qu'ils n'ont pas dit... Aniglot, ou Hachem ne leur avait pas dit non plus, Aniglot lachem, ou le vanechem, vanistarot, etc. aussi. Et là, Dibouram shel Israël, aya, ou ba Moshe, mi piak voura vekima. En fait, c'est les Bnei Israël qui ont dit. Les Bnei Israël ont dit, Anistarot lachem elokin. Vaniglot lanou. Ce qui est Anistar, on le laisse pour Hachem. Et. Ce sont les Bnei Israël qui ont parlé, mais maintenant c'est Moshe Rabbeinu qui l'a repris à son compte, qui en fait, Moshe Rabbeinu a validé, il a validé ce que les Bnei Israël ont dit. Seulement, ils ont refusé, c'est un Nista. Ils ont refusé de payer pour quelqu'un qui... Ils ont dit, si on avait lu que les listes, comme Hachem voulait qu'on soit aussi comptable, sur les Nistarot, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le clan d'Israël se donne, il est garant pour tout. Là, ils ont dit non, on ne suit pas, on suit pour, effectivement, on est garant, collectivement garant pour tout ce qui se fait publiquement. La totalité, on est tous garants. C'est pour ça qu'on est, c'est ça ce réseau de co-responsabilité qu'on a les uns à l'égard des autres. De là aussi, par exemple, l'obligation de faire des Torahot, c'est-à-dire de faire le cas échéant des remontrances à quelqu'un. Enfin, si chacun avait à s'occuper que de soi-même, de quoi tu te mêles? C'est bon, j'ai mon, c'est,
Non, c'est une chose de s'occuper de tout, mais c'est autre chose d'être puni à cause de
mais ça marche seulement si le fait, ce qu'on appelle être puni, ça veut dire tu es vraiment responsable. Parce que responsable, s'il n'y a pas de conséquences à ma responsabilité, ouais, c'est pas une responsabilité. Je suis responsable de la faute de l'autre. Parce que j'aurais dû le. Il y a une responsabilité au sens où j'aurais dû. On va regarder. J'avais des. Si c'est public, effectivement, j'ai une obligation de réagir. J'ai pas le droit de laisser faire une iniquité comme ça publiquement. Alors bon, après, on entre dans le problème. Est-ce que je peux, même si c'est public, est-ce que je peux intervenir? Est-ce qu'on va m'écouter? Est-ce qu'on va pas m'écouter? Est-ce que si je fais une remontrance à celui-là, il va me casser la figure? Tout ça, ce sont des questions qui sont posées par la Gemara. C'est jusqu'où ça va, cette obligation? Je vais être responsable. Mais il y a des choses où, en principe, je suis responsable, mais je peux être considéré comme anus. Je suis anus, ça veut dire il y a une contrainte qui m'empêche de faire. Le rapport de force, je suis responsable, mais le rapport de force est tel que je ne peux pas exercer mes responsabilités.
D'accord.
Imagine, un père, il est responsable de son fils, oui, disons comme ça. Mais le fils, il est plus puissant que son père. Il n'obéit pas à son père, il fait ce qu'il veut. Et le père n'a aucun moyen de le contraindre. Ben, il est à nous, le père, qu'est-ce qu'il veut faire? Tous ces parents dont les enfants qui ne sont pas du tout entendus par leurs enfants. À un certain niveau, on peut dire, à un moment donné, ils sont à nous cimes. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils peuvent obliger leurs enfants à aller à l'école, ils peuvent pas. On va leur couper les allocations familiales, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Les enfants, ils ont peur ni de leurs parents, ni de la police, ni de personne. Alors tu vas couper les allocations, les pauvres parents, c'est-à-dire ils vont devoir, les enfants vont venir manger à la maison, ils donnent à manger, et puis les parents n'auront pas de quoi leur donner, et ça va encore aggraver la situation. Ils n'ont rien gagné. Si de leur couper les vivres, en fait, c'était un moyen de pression sur les enfants, ça va, mais ils n'en ont pas de moyen de pression sur leurs enfants. Pour beaucoup, donc c'est inutile. Comme ça, ils sont anocimes. Là, on peut dire, ils sont fautifs parce que au début, ils auraient dû mettre le holà sur la. Ils auraient dû éduquer les enfants. C'est pas évident. On aura peut-être pas les conditions dans lesquelles ils vivent ou ça font qu'ils n'ont pas pu s'occuper de leurs enfants. Alors ce que dit la Torah, c'est tu refais des remontrances.
Alors
tu fais des remontrances. C'est-à-dire un philo LFP à 1000, même 1000 fois. Rien faire d'autre. Ça veut dire que on ne te demande pas d'attacher le bonhomme, etc. C'est pas
ni de faire du harcèlement.
Pardon ?
Ni de faire du harcèlement.
Oui, c'est plus le harcèlement où ça ne sert absolument à rien, il faut faire ça intelligemment. Oh, tu refais, peut-être qu'il entendra mieux aujourd'hui, peut-être demain, ou bien tu vas essayer de te faire conseiller pour savoir comment vendre la chose, comment lui faire passer la chose. Alors, s'il ne veut pas entendre, il ne veut pas entendre, on ne peut rien lui faire. Mais à la limite, si on ne dit pas à quelqu'un tu es responsable, c'est-à-dire il faut en répondre. Tu dois répondre. Je peux répondre, j'ai rien pu faire. Éventuellement, ça peut être acceptable. Ça peut être vrai. Pas responsable, ça veut seulement dire c'est toi qui réponds. Mais tu peux répondre non, comme dans l'histoire de Egla Arufa, dans la génisse dont on brise la nuque parce qu'il y a eu un meurtre et qu'on attribue le on rattache le meurtre, le cadavre à une certaine ville, et les anciens de la ville viennent dire c'est pas nous. Ils répondent, c'est tout. On pense pas du tout qu'ils sont fautifs, mais c'est à vous à répondre. Là, c'est étymologiquement responsable, même s'ils sont pas coupables. Tu dois répondre. Faut que quelqu'un réponde de cela. J'en réponds. Ok. C'est tout ce qu'on peut. Je vais répondre de ça, et maintenant, des fois il y a des réponses où je suis à nous. Répondre, parce que c'est juste, il s'est passé. C'était ma responsabilité de veiller là-dessus, mais j'ai fait ce qu'il fallait. Ça n'a pas marché.
On parle toujours de cas où c'est des individus, mais c'est la
collectivité. La collectivité est responsable, c'est-à-dire que c'est le Beddin, par exemple, qui doit faire régner l'ordre dans la cité pour que, qu'il n'y ait pas de choses, si les gens profitent de situations de...
Et en
Galoute, par exemple, où on n'a pas de... En Israël, c'est la même chose, hein, c'est la Cour suprême, c'est elle va pas d'après la Torah. Et à nous, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un rapport de force. Galoute, c'est un rapport de force. Je suis dans un rapport de force défavorable. Alors on pourrait dire, mais c'est de ta faute si tu es en galoute. Je ne crois pas qu'on va nous dire en galoute. La Gemara, elle ne pense pas comme ça, mais la Gemara, elle dit. Les choses qui nous empêchent de faire la volonté d'Hachem, c'est le fameux le levain dans la pâte, le sort chez Béissa, Veshibut Galouyot, et le fait d'être en galoute. Et c'est considéré que, ouais, c'est ce qu'on répond à Hachem. On lui dit, voilà, nous on voudrait bien faire ce que tu nous as demandé de faire, mais Shibut Galouyot nous en empêche. Le fait que nous soyons dépendants des peuples chez lesquels nous sommes en galoute, ça nous empêche éventuellement de faire certaines choses. Et c'est considéré comme une réponse valable. On ne dit pas, oui, mais c'est votre faute que vous êtes en galoute. Anochi Hashem, la Mechita continue. Anochi Hashem Elokecha, lama ne'emar. Pourquoi est-ce que c'est dit Anochi Hashem Elokecha? Lefi, parce que chez Nigla Layam ki Gibor Ose Milchamot. Parce qu'au passage de la mer, Akadosh Baruch Hu s'est présenté au Bnei Israël comme quelqu'un de puissant qui fait la guerre contre les Égyptiens. C'est marqué Hashem. Avait dit à Moshe Rabbeinu qu'il a répété au Bnei Israël, Hashem ilachem lachem v'atem tacharishun. Hashem va faire la guerre pour vous et vous taisez-vous. C'est marqué aussi Hashem dans la Shira, ils ont dit Hashem ish milchama. Mais il s'est aussi dévoilé Nigla al Har Sinai kezaken malei rachamim, comme un vieillard plein de tendresse. C'est marqué Vayiru et Elokei Israël. Ils ont vu Elokei Israël. Elokei Israël, c'est le Dieu d'Israël, celui qui s'occupe des Bnei Israël. Kshenigalu Mahu Omer, Ketsem Hashamaim, et quand ils ont été libérés, c'est marqué Ketsem Hashamaim, Vomer, Chazé, Chavit Ad Di Karsevan, Ramav, Vamar Nar Dino, Nagad venafak min kadmoe, etc. Shelo iten pitron pe leumot haolam lomar shtereshuyoten. Alors là-bas, c'est marqué dans le Sefer de Daniel, c'est marqué justement qu'il y avait c'est l'histoire des fameux trônes, des trônes divins. Et la formulation est un peu ambiguë, c'est de l'araméen, mais problème est un peu ambigu. Et les, on pourrait dire, ben, c'est la preuve qu'il y a deux rechouillots. C'est la preuve qu'en fait, il y a un dieu du bien et un dieu du mal. Il y a deux pouvoirs, dualisme. Et donc Hachem dit Anochi Hachem Elokecha. Pour ne pas donner de possibilité au peuple de dire, mais en vérité, il y a deux rechouillots. Et là, Anochi Hachem Elokecha, ça veut dire Ani Alayam, Ani Alayabasha. Ani le Shavar, ani le Atid Lavo, ani le Olam Hazeh, ani le Olam Haba, shenema Reu Ata ki ani anihu, ad zikna anihu. Regardez, voyez, c'est moi, c'est toujours le même, je suis toujours le même. Dans toutes ces situations, il y a une constante, c'est moi. C'est toujours moi, mais je me montre des fois sous cet angle-là, et sous cet autre angle-là, et ces diverses facettes. Ouais, elle pourrait faire penser, ben voilà, il y a le dieu de la mer, il y a le dieu de, il y a le dieu de la guerre, et il y a le dieu de la montagne Sinaï, etc. Et bon, que c'est des divinités différentes. Alors Hachem dit, que ce soit bien clair, Anochi Hachem Elokecha, il n'y en a qu'un seul, c'est moi, dans toutes ces situations. Tout ce que tu as vu, tout ce que tu vois, tout ce que tu verras, hein, sache, c'est toujours moi. Un nihu. Koamar Hashem, Melech Israël Vegoalo. Ainsi parle Hashem, a parlé Hashem, roi d'Israël, libérateur, Hashem Tzvakot, son nom divin, Ani Rishon Vani Acharon, je suis premier, je suis dernier, Vomer, Mi Paal Veasa, Korea Dorot Merosh, Ani Hashem, Ani Rishon. Qui est-ce qui a fait les choses, qui est-ce qui, depuis le début, a tout mis en place, en fait, c'est moi, un Irishon, etc. Et Rabbi Nathan Omer, Mikan Tshuva Alaminin, Shomrim Shte Roshuyoten. De là, il y a une réponse au Minim, c'est certains hérétiques qui disaient justement qu'il y a deux Roshuyot, il y a deux pouvoirs, deux divinités. כשעמד הקדוש ברוך הוא ואמר אנוכי השם אלוקיך מי עמד ומיכה כנגדו est-ce que quelqu'un s'est levé et a dit non protesté et si tu dis ואם תאמר במתמניות היה דבר et si tu dis oui mais personne n'a protesté parce que ça a été dit dans la discrétion en cachette alors personne n'a entendu donc personne s'est senti n'est intervenu. Alors Kvar Nehemar, l'obéseter dibarti. Ce qui dit, Hachem dit, j'ai pas parlé dans la en cachette, j'ai parlé ouvertement. Leiluani notna. Et là, lo amartilahem tou bikshuni velon edatia pangas vechenu omer Hachem dover tzedek magid mesharim. Donc, les psukim pour dire qu'effectivement, il a dit très clairement, je donne la Torah au Bnei Israël, ouvertement, tout le monde voit exactement ce qu'il en est, c'est en pleine lumière. Etzem la Shamaim la Torah, c'était archi clair, en plein ciel, quoi, ou un ciel absolument lumineux. Tout était très clair, et donc cette deuxième partie de la Mechilta, elle vient pour le Anochi Hashem Elokecha vient dire que contrairement à ce qu'on peut voir, semble-t-il, ce qu'on peut être amené à penser au vu de l'histoire de l'intervention divine dans le monde, qui nous amènerait à penser qu'il y a plusieurs divinités, Hashem vient, un Seret HaDibrot, c'est une déclaration où Hachem dit tout ça c'est moi, toutes les situations c'est moi. Et alors on dit mais bon il l'a dit, mais chacun peut le dire, moi, je peux me lever et le dire, c'est moi. Il dit alors Rabbi Nathan, il dit oui mais est-ce que quelqu'un a contesté? Personne n'a dit non. Et comme ça a été dit archi publiquement, si quelqu'un, s'il y avait une autre divinité, elle aurait dû venir et dire mais pas du tout, c'est bon. Donc quelque part, le fait d'avoir dit un ochi, de dire c'est moi qui ai tout fait, c'est moi qui suis, et il y a une pérennité, c'est toujours moi dans toutes les situations, et de l'avoir dit en public, c'est, ça vient dire personne ne peut contester que je suis seul en fait.
C'est comme le fait d'affirmer quelque chose sans contradicteur, c'est...
Oui, si les contradicteurs, si ça a été dit devant les contradicteurs. Un contradicteur qui entend une chose, enfin, une autre autorité qui dit c'est moi, qui entend dire que. Il y en a un qui vient et qui dit tout est moi, mais il ne va pas le laisser passer.
Il y a des contradicteurs, soit les Égyptiens ou les Romains.
Mais justement, à ce moment-là, ils n'ont plus contredit. Hachem dit au Sinaï, enfin, quand il l'a déclaré au Sinaï, c'était dit devant tout le monde. Et donc. Hachem dit, personne ne conteste que Hachem est le... Il y a les contradicteurs, ils ne sont pas les contradicteurs d'Hachem. C'est les contradicteurs qui viennent et qui disent, nous aussi, ou bien nous, on va te combattre et te chasser, comme Nebuchadnezzar dit, moi je vais aller au ciel et je vais faire la guerre et je vais te chasser. Ils prétendent être plus forts, ils prétendent que ceux qui veulent s'opposer. Ou Paro qui dit je le connais pas, mais après bon il est à la vente, je veux dire, donc il n'y a pas de contradiction qui tienne le coup suffisamment longtemps, c'est ça l'histoire, peut-être qu'il faut dire comme ça. Alors, il y a un davar acher, autre chose. Anochi Hashem Elokecha. Shamad HaKadosh Baruch Hu ve'amar Anochi Hashem Elokecha. Lorsque Hashem a dit Anochi Hashem Elokecha, bon, visiblement, ils disent que le Mahamar ici, il est très meshubash, c'est-à-dire qu'il y a plein de fautes. Ah non, c'est le texte ici, il est assez fautif, quoi. C'est un manuscrit, c'est un texte qui est plein de...
C'est une
Mechilta, c'est un Midrash, ouais, hein, mais il a... celui qui parle, c'est le Netziv de Volozhin. Lui, c'est le période de Napoléon. Alors, le texte dit Anochi Hashem Elokecha, Kshamad HaKadosh Baruch Hu Ve'amar, Anochi Hashem Elokecha, Ayu E'arim Mitra'ashim. Les montagnes se sont mises à faire du bruit, c'est comme si les montagnes sont devenues des volcans, je ne sais pas. Ve'agvaot Mitmototot, et les collines commençaient à sautiller, quoi. Ba'tabor Mibet Elokim, le Carmel Me'aspamia. Le mont Tabor et le mont Carmel se sont commencés à circuler. Chez Nehemar, Chai Ani Neum Amelech Hashem Tzvakot Shemo, Ki Ketavor Beharim, ou Ke Carmel Bayam, Yavo, que comme le Tabor parmi les montagnes, et le Carmel, qui était. Le Carmel, c'est considéré comme une montagne qui est dans la mer. Ce n'est pas le Carmel de Haïfa. C'est une montagne qui est effectivement au large de Haïfa, mais dans la mer. Que Carmel Bayam, Yavo. Donc ils circulent, ils bougent, l'un sur la terre, l'autre parmi les montagnes et l'autre dans la mer. Zéomer, Ani Nikreti. Chacun dit, C'est moi qui étais appelé. C'est Omer Ani Nikreti, c'est moi qui étais appelé. C'est-à-dire chacun, hein, quand Hachem se dévoile, chacun veut être le support de ce dévoilement. Donc chacun dit, c'est moi qui étais appelé, justement. Et Vekivan Shechamu Mipiv, quand ils entendent que la parole continue, elle dit Asher Otseticha Meretz Mitzrayim, ils comprennent que c'est pas les montagnes qui ont été appelées, c'est pas elles qu'Hachem Anochi Hachem Elokecha, ça pourrait s'adresser à une montagne. Bon, ça veut dire Hachem dit, je suis ton Dieu, c'est moi qui te gouverne. Alors chacun pense, c'est moi qui suis, j'ai été appelé. Mais après, Hachem continue et il dit Asher Otseticha Meretz Mitzrayim. Amad kol echad ve'echabim komo. Alors chacune des montagnes, etc., toutes les choses sont restées en place. Va'amru lo asa kela imi she'otzi Mitzrayim. Non, visiblement, il ne s'adresse qu'à celui qui l'a sorti d'Égypte. Ce qu'il dit Asher Otseticha Meretz Mitzrayim. Ça veut dire quoi ici, ce midrash, qu'est-ce qu'il veut dire? Il a l'air de dire que dans Anochi Hashem Elokecha, ça pourrait s'adresser à n'importe quoi. Hashem Elokecha, c'est pas obligatoirement, ça s'adresse pas en soi obligatoirement au Bnei Israël. Dans la formulation ne dit pas je m'adresse au clan Israël. C'est assez curieux. Assez curieux parce que ces paroles, Hachem les a dites devant le clan Israël. Et comme elles ont résonné dans le monde, alors chacun a pensé qu'il était, que ça s'adressait à lui, en fait. Et donc Hachem, en disant, en rapportant la sortie d'Égypte, c'est comme ça qu'il a désigné le clan Israël. Le clan Israël, c'est ceux que j'ai fait sortir d'Égypte. Il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda Halevi et le Rambam, pour savoir comment on définit le clan Israël. Vous savez probablement. Le Rambam, il dit, le clan Israël, c'est l'ensemble des gens qui reconnaissent la Torah, qui reconnaissent les valeurs de la Torah. Et Rabbi Yehuda Halevi dit, non, ce qui caractérise le clan Israël, c'est une expérience historique. C'est la sortie d'Égypte. C'est ceux qui sont sortis d'Égypte. Le clan Israël est défini comme étant ceux qui sont sortis d'Égypte. Et on pourrait dire que la Mechilta, ici, elle vient dire que les Aseret Adibrot, que l'acceptation des Aseret Adibrot, de la Malchoute d'Hachem, etc., de qui est-ce qu'Hachem veut être reconnu? De ceux qui sont sortis d'Égypte. Qu'il a sorti d'Égypte. Donc c'est comme. Pardon ? Ça peut être entendu comme étant la sortie, comme étant la volonté de s'arracher à l'idolâtrie, etc., et d'accepter de suivre Hachem. Mais c'est pas une démarche intellectuelle seulement. C'est construit pour Rabbi Yehuda Halevi sur. C'est une forme de vécu. C'est. Oui, mais il faut. Le Rambam, il dit pas que ça a à voir avec le vécu.
Et leurs descendants ou.
Oui, bien sûr. Non, bien sûr, mais la définition du clan Israël, c'est ceux qui, dans leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont une histoire en commun. Une naissance en commun. Une histoire de leur fondation, de la naissance. Oui, ils ont le même acte de naissance. L'ensemble des gens qui ont le même acte de naissance. Et pour Rambam, c'est les gens qui adhèrent à quelque chose. Et c'est aussi une différence entre ce qui la fondation, elle est dans le passé, acte de naissance, quoi. Et pour lui, c'est dans le présent et le futur, quoi. C'est pour Rambam. Ceux qui adhèrent à quelque chose. C'est pas.
Pour l'un, c'est l'effet de la volonté, pour l'autre, c'est une
chose. Oui, pour les uns, c'est un choix. Et pour Rabbi Yehuda Lévi, ce qui forme le clan d'Israël, c'est quelque chose. Il y a aussi eu un choix, parce que il a fallu vouloir. Il y a eu le choix de vouloir sortir, puisqu'il n'y a que 20% des gens qui sont sortis. Il y a donc eu aussi un choix. Il y a des choix, seulement ensuite, c'est. Ensuite, c'est l'expérience historique qui fonde. C'est ce qu'on a vécu en sortant d'Égypte. C'est sûr que la Torah, elle est 49 fois, on répète, la sortie d'Égypte. 49 fois, c'est la famille Yetziat Mitzrayim, etc. Donc c'est un leitmotiv permanent dans toute la Torah. Il y a la sortie d'Égypte qui me qualifie pour faire certaines mitzvot. La Torah dit, tu sais bien que c'est comme ça et tu pourras être sensible à la souffrance de l'étranger, etc. Parce que toi, tu as été étranger en Égypte, etc. Donc, on utilise cette expérience, même si c'est une expérience presque livresque, quoi. Mais on utilise cette expérience du clan Israël pour expliquer pourquoi certaines mitzvot lui sont données à lui et ne sont pas données aux autres. Parce que quelque part, il y a des mitzvot qu'on ne peut faire que grâce à l'expérience qu'on a faite. D'abord, après, Anochi Hashem Elokecha, Kshamad HaKadosh Baruch Hu Veomer, Anochi Hashem Elokecha, Aita Haaretz Chala, Shenemar Hashem. בצעדך מסעיר, בצעדך משדה אדום, ארץ רעשה, que la terre elle a tremblé, elle a fait du bruit, quand tu es sorti de Hachem, quand tu es sorti de Seir, quand tu as marché en dehors de Sde Edom, donc tu t'es quand tu as quitté, Tzedra Miseir et Sde Edom, tout ça c'est Seir c'est Esav, et Sde Edom c'est aussi Esav. On dit la terre, elle a racha, elle s'est mise à gronder. Lorsqu'Hachem s'est séparé de Edom, Omer, Harim, Nazlou, les montagnes ont quasiment fondu, Mipne Hachem, devant Hachem, Omer, Kol Hachem Bekoar, Kol Hachem Behadar, Adoube Chalo, Kulo Omer Kavod, Adchenit Malou, Batehem, Miziv Ashkina. Et à ce moment-là, ça fait tellement de bruit, la voix d'Hachem, et le monde, Echalo, c'est le monde entier qui est le Echal d'Hachem, tout le monde disait la gloire, enfin, chantait la gloire d'Hachem, au point que jusqu'au moment où toutes les maisons se sont remplies de l'éclat de la présence divine dans le clan Israël. Bota sha'a nichnesu kol malchei umot ha'olam etzel Bilam ha'rasha. À ce moment-là, tous les peuples du monde sont allés trouver Bilam, etc. Vekivan she'shamu mipiv adavar panu kulam ve'alchu ish ish limkomo. Et quand Bilam leur a expliqué que lui il ne pouvait pas faire plus que ce qu'Hachem lui permettait de faire, ils sont retournés chacun à sa place, ils ne pouvaient rien faire. Ou le fichach nitbeu mot haolam kedei shelo liten pitrot pe lahem klape shchina lomar ilu nitbanu kvar kibalnu aleinu re shenitbeu velo kiblu aleinu. שנאמר, ויאמר השם מסיני בא, נגלה על בני עשיו הרשע, ואומר להם, מקבלים אתם את התורה? אמרו לו, מה כתיב בה? אמר להם, לא תרצח, אמרו, זוהי ירושה שהורישנו אבינו, שנאמר, על חרבך תחיה, נגלה על בני עמון ומואב, אמר להם, מקבלים אתם את התורה? ומה כתיב בה? אמר להם, לא תינף, אמרו, אמרו לו, כולנו מניוף. כתיב ותארנה שתי בנות לוט מאביהם, ואיך נקבלה? Je reprends la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme en fait, ça veut dire tous les rois ont voulu que la parole d'Hachem s'adresse à eux. Donc ils sont allés demander la parole divine à Bilam, en quelque sorte, qui était leur prophète. Moshe a donné la Torah au Bnei Israël, alors ils sont allés chez Bilam, donne-nous, par ton intermédiaire, on veut aussi. Alors, du coup, puisqu'ils ont demandé, alors, pour qu'ils ne puissent pas dire si, si Hachem nous avait donné, nous, on aurait aussi accepté. Alors, pas tout dire, je vous l'ai donné. Hachem leur a donné, effectivement, leur a proposé la Torah. Et donc, ce fameux Midrash qui dit que, un pasouk c'est marqué, voyons, Hachem mi Sinai ba, Hachem vient du Sinai, venigla, et il s'est dévoilé al bnei Esav Aracha, il s'est dévoilé aux enfants, aux descendants de Esav Aracha, et il leur a dit, est-ce que vous acceptez la Torah? Ils lui ont dit, mais qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Amar lahem lo tirtzach, c'est marqué, tu ne tueras pas. Amrou, zui, Yerusha, chez Rishenu, avinu. Mais nous, on vit de la Retzicha. Et ça vient de ce que, quasiment, c'est son père qui a donné cette bracha à notre père. Al-Kharbecha Tichye. C'est Yaakov qui l'a, c'est Yitzhak qui a donné à Esav cette bracha. Tu vivras grâce à ton glaive. Hachem s'est dévoilé aux descendants de Amon et Moab. Il leur a dit, est-ce que vous voulez la Torah? Ils ont dit, mais qu'est-ce qui est écrit? Il s'est marqué l'otinaf. C'est une relation sexuelle interdite. Alors il dit, mais nous, on provient de là. Nous sommes issus des deux filles de Lot qui ont été. Qui sont enceintes de leur père. Comment tu veux qu'on accepte un truc qui nous nie à ce point-là? Niglal bnei Ishmael, amar lahem, mekablim atem ta Torah, amrulo, ce qui est écrit, on dit l'otignov. Amrulo, bezou, abracha, dit baech avinu. Mais notre père, il a reçu ça comme bracha. Oui, il est péré Adam, etc. Uktiv ki ganov gunavti. J'ai été volé. Donc, ils disent, mais nous, on vit là-dessus. Uksheva etzel Israël, quand Hachem s'est présenté pour proposer la Torah d'Israël, mimino eshdat, l'amo, avec dans sa droite, le Eshdat, c'est la Torah, c'était pour eux. Patrukulam, Piem, Vamrou, Kol Asher Dibir Hashem Nase Venishma. Ils ont tous dit, tout ce qu'Hachem a dit, on va le faire, on va entendre. Renou Omer, Amad Vaim Oded Aretz, Ra Vayater Goim. C'est marqué que le Pasuk dit, Akadosh Baruch Hu a évalué la terre, et donc il a mesuré la terre. Ra, il a vu Vayater Goïm, et il a libéré en quelque sorte les Goïm. Amar Rabbi Shimon ben Lazar, Im b'sheva mitzvot shenistavu bnei Noach shekiblu aleihem enan yocholim la'amod ba'en, kal vachomer le'mitzvot sheba Torah. Il dit, mais en fait, ils ne pouvaient pas, puisqu'ils avaient 7 mitzvot. Et quand on dit que Hachem a regardé la terre, ça, il a vu qu'on ne respectait pas la Torah des 7 mitzvot des Bnei Noach. Et donc, il a dénoué les goïms de ce nœud qui les attachait à ces mitzvot. Donc, ils n'ont plus l'obligation. La Gemara dit, la Gemara, lui, je pense qu'il a dit. Je ne sais pas si la Mechilta. Non, elle ne le dit pas. La Gemara, elle dit, mais quoi, ils ont gagné, maintenant ils ne sont plus astreints. Alors, la Gemara, elle répond, non, ils sont toujours astreints, et quand ils font les mitzvot, ils ont seulement le salaire de gens qui auraient fait des mitzvot auxquels ils ne sont pas astreints. C'est un salaire moindre que celui qui obéit. Là, ils leur ont enlevé le mérite de l'obéissance. puisqu'il ne le faisait pas. Alors, Rabbi Shimon ben Lazar, il dit, mais si les sept mitzvot, ils n'ont pas pu le tenir, comment tu veux qu'ils tiennent les 613? Machal, le Meller, chez Manalo, il a shnei apotropsim, echad memouné à l'otsar shel Teven, echad memouné à l'otsar shel Ketzef, shel Zahav. Il met deux gestionnaires, un gestionnaire du foin, de la paille, et l'autre gestionnaire de l'or et de l'argent. Zeshem memouné à la Teven, nerchad. Vayamitraem, anchelo, manuotao, à l'otsar shel Ketzef et shel Zahav. Et celui qui était responsable de la paille, du foin, il a dû être soupçonné et il se plaignait qu'on ne l'ait pas nommé responsable. Il dit, c'est pas très gratifiant d'être responsable de la paille. J'aurais voulu être responsable de l'or et de l'argent. Alors l'autre lui a dit. Il a dit, imbécile, beteben kafarta, le kesev zahav al achat kama vekama. Ici, si tu voles en réalité de la paille, alors tu t'imagines ce que tu aurais fait avec l'or et l'argent. Il a dit, kalva chomer, mab ne noach beshev mitzvot bilvad lo yachlu la'amod ba'em, beshesh meot u shlosh esre mitzvot al achat kama vekama. Donc effectivement, eux, ils n'ont pas reçu la Torah parce qu'ils ont fait le contraire des preuves. Quoi. Ils ont montré qu'ils ne pouvaient pas gérer ça. Ils ne pouvaient pas gérer les mitzvot. Alors je ne sais pas si ce deuxième texte, il faut le voir comme un deuxième texte, parce que si on le voit et qu'on l'utilise en même temps que le premier texte, enfin, ce qui est juste écrit juste au-dessus, alors, c'est très difficile à comprendre. Dans les Sheva Mitzvot d'Ebné Noach, il est déjà marqué, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. Donc ça leur était déjà interdit. Donc si déjà ils n'ont pas tenu ça, alors ils n'ont pas besoin de... Ou alors il faut dire que le premier texte vient expliquer pourquoi ils n'ont pas tenu l'autre. Pas seulement dans la Torah des 613, c'était déjà dans la Torah des 7 mitzvot, il y avait déjà une partie de ces mitzvot aussi, de ces interdits-là, et ces interdits-là, ils n'ont pas réussi à les tenir non plus, donc à plus forte raison. Mais peut-être on explique. Là, on dit simplement ils ne les ont pas tenus, on explique pourquoi ils ne les ont pas tenus. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais c'est contraire à notre culture, c'est contraire à notre essence, nous sommes issus de cela, ou on a une bracha pour que ça réussisse, ou alors Yitzhak il a dit à notre père que c'est comme ça qu'il doit vivre. Mais si c'est ça, c'est une bonne raison, non? Si vous voulez, ça c'est une bonne raison pour expliquer pourquoi ils n'ont pas tenu les autres mitzvot. Ça, on peut comprendre. Mais ce n'est pas une bonne raison pour ne pas accepter la Torah. Je m'explique, c'est déjà vu ça, mais comme on l'a dit, les Sheva Mitzvot des Bnei Noach, on ne leur a pas demandé leur avis. Alors ils peuvent dire, bon, c'est vrai qu'on n'était pas à la hauteur, il y avait ces mitzvot-là, mais d'un autre côté, on avait une contre-mitzvah en quelque sorte. Yitzhak qui a dit Al Harbecha Tichye, la Bracha, etc. Donc, bon voilà. Bon. D'un côté, il y avait cette mitzvah, d'un autre côté, il y avait quasiment une mitzvah contraire. Mais quand Hachem vient leur proposer la Torah, il sait bien tout ça. Et s'il leur propose, malgré tout cela, la Torah, c'est qu'ils peuvent le faire. C'est qu'au fond, la Torah, c'est pas le lot tirtzar de « tu ne tueras pas des sept mitzvot et tu ne tueras pas de la Torah », à part le fait que c'est pas exactement la même chose, mais c'est essentiellement différent parce que l'un est une mitzvah qui est donnée à quelqu'un, qui est proposée à quelqu'un, après qu'il ait dit, qu'il ait répété, et qu'il ait montré que bah, je ne peux pas le faire, j'y arrive pas. Et si malgré tout on lui repropose ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Je te dis que si tu l'acceptes comme tel, tu peux le faire. Tu le peux. Moi, je te dis que tu peux. Donc c'est pour donner une force de résistance. Je te dis que tu peux. Explicitement, je te dis que tu peux. On avait expliqué aussi que si ce qu'il aurait demandé, ce qu'il aurait donné là, on pourrait le dire comme ça. Bon. Hachem leur propose quelque chose qui est contre leur essence. Donc ça n'a pas de sens, ils se moquent du monde. Mais il faut comprendre ici que c'est une, en fait ce qu'il aurait donné, c'est une deuxième chance. Pourquoi ? Parce que en fait, quand ils ont demandé qu'est-ce qu'il y a dans la Torah, en fait, ils ont déjà perdu. D'accord ? Parce que si tu demandes ce qu'il y a dans la Torah, et que tu acceptes la Torah parce qu'elle te convient, ça veut dire que tu es au-dessus de la Torah. C'est toi qui juge si la Torah te convient ou pas. Donc tu es au-dessus de la Torah. Donc c'est déjà plus la Torah. Ça c'est bon pour n'importe quelle loi. Je juge est-ce que cette loi me convient ou pas. J'accepte les règles du jeu. Mais la Torah c'est quelque chose qui est le plan du monde. Donc c'est pas quelque chose qui fait l'objet d'une c'est-à-dire quand je veux te faire dire oui, c'est pas parce que tu pourrais dire non. C'est pas du tout la même chose. C'est pas que tu peux dire non. Parce que si tu c'est le oui, ça veut dire je dis oui parce que c'est toi qui me le proposes. Je dis oui parce que c'est Hachem qui me le donne. Pas du tout parce que le contenu me convient. Parce que c'est là. Parce qu'il s'agit ici de la volonté d'Hachem. Hachem me propose, par définition, c'est faisable. Ah, ça va contre tout ce que je veux. Ben justement, si tu ne l'acceptes pas, bien que cela aille. Il faut l'accepter bien que cela aille contre ton essence. Parce que c'est seulement comme ça que tu peux montrer que tu l'acceptes parce qu'elle vient d'Hachem. Parce que si tu l'acceptes et que c'est cohérent avec ce que tu sais, ce que tu veux, etc., c'est toi qui décides. C'est ta loi. Mais comme ils avaient perdu, puisqu'ils s'étaient mis au-dessus de la Torah, il faut mettre la Torah au-dessus d'eux. D'accord ? Et comment ? En acceptant quelque chose qui est inacceptable. Qui est, disons, à vue humaine, inacceptable. Donc c'est une. En fait, ce qu'Hachem leur propose, c'est une deuxième séance. Une deuxième chance. Maintenant, vous pouvez rattraper ce que vous avez mal fait la première fois. En acceptant, bien que explicitement je vous ai dit, et je sais bien, que ça va contre votre culture, contre votre essence, etc. Mais je vous le propose en sachant tout cela. Donc, à quel titre on peut accepter une chose pareille ? Uniquement parce que ça vient d'Hachem. C'est pas le contenu qui me séduit. C'est celui qui me savait. C'est pas la mitzvah elle-même qui m'intéresse. C'est le lien que je peux établir avec le metzavé, avec celui qui ordonne. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ça la grande différence entre les Shema Mitzvot de Bnei Noir, qui n'ont jamais accepté comme tel, pas comme, je ne dis pas comme critique ici. Ils n'ont jamais eu, on leur a jamais proposé d'accepter. Hachem a donné ça comme règle du monde. Après, ils s'y sont pas tenus. Mais ils n'ont jamais dit on accepte. C'était pas. La question s'est jamais posée. Alors maintenant, on leur propose quelque chose à accepter. Mais c'est une acceptation de quelque chose qu'il faut accepter parce qu'elle vient d'Hachem et pas par son contenu. Parce que le contenu, visiblement, il est inacceptable.
Mais là, vous dites que l'égalité, c'est pour l'accepter, même quoi que ça en veut.
Oui, étant donné que ça vient d'Hachem. C'est-à-dire, c'est mon créateur, c'est mon plan, c'est pas une loi qui m'est étrangère, qu'on essaie de plaquer sur moi en l'adaptant, etc. C'est le plan d'après lequel j'ai été créé. C'est à ce titre-là qu'il faut l'accepter. Si on ne l'accepte pas comme ça, elle est inacceptable. Il faut comprendre que ce qui m'est demandé, c'est bon pour moi. Quoi. C'est bon pour moi et faisable. Même si à l'évidence, l'évidence humaine, je veux dire, même si j'ai l'impression, de façon claire, que non, c'est pas spécialement bon pour moi. Et peut-être même que ça m'est difficile. Ou, comme ils disent, mais tu veux comment qu'on vive ? Nous, on vit autrement. Finalement, elle dit pourquoi la Torah n'a pas été donnée en Eretz Israël. Chez l'Oliten Pitron Pe, la Umata Olam, l'Omar, le Fish, Nitna Bealtso, le Fichach Lokibalm. Que les Goyim ne puissent pas dire bon, c'est une Torah pour Israël, puis ça a été mené sur son territoire. Alors, c'est pour ça que nous, on ne l'a pas accepté. Deuxième explication, autre explication, chez Lola Atil Machlok et Benashvatim. Il ne faut pas qu'il y ait des disputes entre les tribus. Chacune dira c'est sur mon territoire que ça a été donné. C'est pour ça que c'était donné dans le désert. Ouvertement, sur un territoire qui appartient à personne. Personne ne peut revendiquer et personne ne peut disqualifier non plus. Le don en disant et c'est un don qui a été fait à tel et tel endroit, il concerne les gens de l'endroit.
C'était donné dans le monde d'Israël, si on
fait bien. Oui, mais là, tout ce qu'on a montré ici, c'est qu'en fait, ça a été proposé au Motaolam, à tout le monde. D'abord, d'une part, ils ont entendu, d'autre part, on leur a spécifiquement demandé avant de le proposer au Bnei Israël, d'ailleurs. Pardon ?
On ne dit pas que ce refus de la Torah, c'était un refus de Hachem.
C'est pas un chilou, l'appartement où Hachem leur donne le choix. Il est clair qu'il n'allait pas le faire, mais il ne fallait pas qu'il puisse dire si tu me l'avais proposé, j'aurais accepté. Qu'ils n'ont pas accepté, puisqu'ils n'ont pas accepté les 7 mitzvot. Et ces 7 mitzvot, ils ne les ont pas tenus, alors 613, de forte raison, ils ne tiendront pas 613. Seulement, les 7 mitzvot, on ne savait pas pourquoi, disons explicitement, ils n'ont jamais dit pourquoi ils ne les tenaient pas. Quand on leur a proposé les 613, ils ont dit mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Et Hachem, justement, il leur a dit. Ce que chacun n'arrivait pas à tenir dans les 7 mitzvot. Et bien ça se retrouve dans les 613. Ces choses-là, elles se retrouvent. Ces choses qui vous ont posé des problèmes et que vous n'avez déjà pas fait. Donc on sait qu'ils ne vont pas le tenir.
Et c'est sur ça, précisément, qu'ils ont dit non pas sur le reste.
Ils ont dit qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors la question c'est... Oui, parce qu'Hachem leur a dit, justement c'est ça qu'on pourrait dire, mais c'est pas sérieux, Hachem leur a dit justement ce qui était inacceptable. Il aurait dû leur dire, il y a des belles choses, etc. Ils pouvaient l'accepter, chacun, celui-là il pouvait accepter l'interdit du vol parce que lui son problème c'est le crime, c'est le meurtre. Et l'autre dit, moi je peux, etc. Donc chacun pouvait accepter, disons en théorie, tout le reste de la Torah, mais pas ce point-là. C'était ça son problème. C'est comme si on disait que chacun, il a dans la Torah quelque chose qu'il sait très bien faire, mais aussi quelque chose qui est pour lui vraiment très très difficile. Une espèce de quasi-impossibilité. Et donc, pour nous, ça veut dire... Bien que ce soit quasiment impossible, sache que c'est possible. La Torah, elle vient, elle te dit, Hachem vient et te dit, c'est possible. On a tous en nous du Esav, du Moav, etc. probablement. Ok, et c'est possible. Yeah.